بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شفاء الحمد لله. نغمسي الله عز وجل qui nous donne la possibilité de reprendre donc ces programmes après, je pense, 2 mois d'interruption avec le Hajj, l'organisation, le concours et les invités et les pèlerins. Donc ça fait beaucoup de mardis. Et les réunions aussi, donc tout ça, ça fait que bon. Maintenant, Inch'Allah, on va essayer de reprendre avec un peu plus de stiqama, un peu plus de régularité, Inch'Allah. Et on a mis en place un système à partir de, enfin, depuis la semaine dernière, un roulement entre deux professeurs, deux alim. Vous avez constaté la semaine dernière avec un collègue Nazif, moi la Nazif Ingar, donc il fera un mardi et je ferai un mardi. Hein, plutôt que de laisser un mardi vide, et là il y a toujours un doute, est-ce que c'est ce mardi à programme ou c'est l'autre, et puis à un moment donné, bon, les gens ne s'assoient plus. Donc il y aura un repère, c'est que tous les mardis soirs, il y a programme après Isha. Là c'est beaucoup mieux. Tous les mardis soirs après Salat al-Isha, il y a programme. Une fois ce sera moi, Inch'Allah. Une fois ce sera mon collègue, Moana Nazif Ingar, Inch'Allah. Donc de cette façon, on sait qu'il y a un repère. Également pour le centre-ville de Saint-Denis, quand on fait les grands signes de Qiyama, là aussi, on a trouvé, Inch'Allah, un collègue qui prend le relais. Ce sera Mufti Assad, on avait dit la dernière fois, Mogalia. Là, en ce moment, il fait programme après Isha en ville. Et donc après, un mardi c'est moi, un mardi c'est lui. On essaie de trouver une façon pour que ben, ça permet au public également d'entendre d'autres personnes, d'autres alim, et puis que le jour, que le mardi soir soit toujours, on va dire, meublé, qu'il y ait toujours un programme. Alors, on se resitue, on est en train de parler des personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, le jour des comptes, et on est en train de parler de cette catégorie de personnes, hein, une catégorie qui a l'air d'être simple, accessible, mais plus on creuse, plus on se rend compte que c'est extrêmement compliqué. Rajulani tahabba fillah, les gens qui s'aiment pour Allah et uniquement pour Allah. C'est-à-dire avoir un amour sincère pour une personne qui n'est pas forcément de la même race, de la même couleur, de la même origine, une personne qui n'a peut-être pas de moyens financiers extraordinaires, exceptionnels, qui n'a pas une position, une situation dans la société qui peut me procurer un quelconque bienfait, mais malgré ça, j'ai un bon rapport avec cette personne. Vous pouvez éteindre le ventilateur, s'il vous plaît. Malgré cela, avoir des relations correctes avec la personne, uniquement parce qu'il y a la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dans son cœur. Donc déjà, quand on voit que développer une relation uniquement basée sur le iman, sans voir les liens de parenté, les liens d'amitié, ou les liens, hein, ça c'est les pires, d'intérêt, ben déjà on se dit que ce n'est pas quelque chose de simple. Je n'ai pas forcément envie d'aller voir la première personne, hein, qui se présente devant moi et nouer des liens de muhabbat, sachant que je n'ai aucun point commun, aucun centre d'intérêt. Je me dis que ben, pourquoi est-ce que je vais l'apprécier? Oui, il y a un point commun, il y a un centre d'intérêt, c'est le kalima, c'est le tawhid, nous adorons le même ilah, nous nous prosternons devant le même Allah, Rabbul Izzah wal Ka'aba. Ça c'est le plus grand lien qui unit les mu'mines, innama al-mu'minuna ikhwa. Ça ne doit pas rester un simple message d'amour, parce que dans beaucoup de religions, dans beaucoup de sectes, même parfois, ou dans des courants philosophes, on parle beaucoup d'amour, d'aimer son prochain, etc. Ça reste des paroles. Aimer son prochain, avoir de l'amour universel, c'est bien. Maintenant, cette personne vient chez toi, il a faim, ce que tu donnes à manger. Ça, c'est concrètement, est-ce que le muhabba, l'amour qu'on a pour son prochain, ça doit se concrétiser par des gestes. Et à travers différents récits, vous vous rappelez qu'on avait vu Rajulun qalbuhu, celui qui a le cœur attaché aux mosquées. Là aussi, on s'est dit que ben, je viens à la masjid 5 fois par jour, je fais Jum'ah, je viens tout le Jum'ah, et ainsi de suite. Je fais partie, sûr, de ces gens, j'ai ma carte. Ben non, on s'est rendu compte qu'en lisant la vie des sahaba, tabi'in, atba'i tabi'in, on se rend compte qu'il y a un fossé entre leur fréquentation de masjid et la nôtre. On se rend compte que réellement, subhanallah, on est à des années-lumière de leur assiduité, de leur muhabba, de leur ta'alluq avec la masjid. Quand on voit quelqu'un qui nous dit que pendant 40 ans il était takbir oula, un autre qui dit durant toute sa vie il n'a jamais été à l'extérieur de la masjid pendant l'heure de Adhan, on se prend des claques. Des claques, mais vraiment, on se dit que vraiment on n'est rien. Que ma relation avec la masjid, la seule chose que je fais de bien, c'est que je viens 5 fois par jour. C'est bien, mais lui, il est là, pendant 40 ans, il n'a jamais raté le premier saf ni takbir oula.
Ça, c'est que rattaché au masjid. Donc, au fur et à mesure, on creuse, on finit par se comparer aux pieux prédécesseurs. Comment eux, ils pratiquaient ces hadiths, ils mettaient en pratique. Et c'est là qu'on se rend compte que ben, ceux qui ont reçu, radiallahu anhum, là, ben, ils l'ont vraiment mérité. Hein. C'était pas juste parce qu'ils étaient dans la même époque que le Prophète sallam. Certes, ils étaient à la même époque que le Prophète sallam, mais c'est surtout, c'est également qu'ils ont su développer des a'mal, des actions et des sifat, des qualités. Ils ont eu l'agrément, ils ont eu l'attestation qu'Allah Azza wa Jal est satisfait d'eux. Maintenant, quand on dit quelqu'un qui aime son prochain en Allah, le concept, elle est simple. Le concept, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Et un peu plus loin, ce qu'on avait vu, subhanallah, je ne sais pas quel mois, Shawwal ou Dhul-Qa'da, si on avait fait, que les pieux prédécesseurs qui avaient compris le sens de s'aimer pour Allah, pour eux, quand je dis que Sharif, c'est mon frère, Sharif peut venir chez moi, il peut prendre mon argent, il peut prendre ma voiture, d'accord, par analogie, c'est-à-dire il peut jouir de mes biens comme si que ça l'appartient. Ça, c'est vraiment « hubbu fillah ». C'est déconsidérer ce qu'on a du dunya et se dire que tout ça, ça a été accordé par Allah Azza wa Jal et on est frères en islam, on partage tout. Alors là, ça coince. Là, je me dis que « ah bon, c'est ça, hubbu fillah ». Moi, je calcul que me fait le salam, basse, et qu'il me fait salam, et que demande ce que ça va, la famille ça va, et ça se limite à ça, « hubbu fillah ». Non, ça va beaucoup plus loin. Et donc, plus on creuse, on voit la vie de ces gens-là, de ces pieux prédécesseurs, et on se rend compte comment eux, ils avaient mis en pratique al-hubbu fillah, s'aimer pour Allah. Et on avait dit que s'aimer pour Allah, ça engage de la sincérité, ça engage également le fait également, subhanallah, soit on est dans le programme, soit on est dehors, ça engage également le fait de ne pas se focaliser sur les défauts de son prochain. Et ça, c'est quelque chose de dur. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est-à-dire que si à chaque fois, subhanallah, il azim wa bihamdi, si à chaque fois que on doit considérer son prochain, on va mettre en avant un catalogue de défauts, tout ce qui m'éloigne, tout ce qui m'oppose, ben on n'aura pas mohabbat avec personne. C'est-à-dire que lui, d'accord, mais lui, il est comme ça, il paraît qu'un jour il a fait ça, il aurait dit ça, regarde ça, ben, khalas, on n'a plus mohabbat avec personne. Aimer son prochain en Allah, c'est faire table rase des défauts qu'il a, ne pas se focaliser sur ses erreurs, et l'aimer parce qu'il y a la ilaha illallah dans son cœur. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que si par exemple j'ai un ami, il va en boîte de nuit, il boit de l'alcool, il fait de l'adultère, et ainsi de suite, je le considère comme mon grand pote, mon poteau, d'accord, au même titre que tel tcha-tcha c'est mon poteau tcha-tcha, et ainsi de suite. Non, là ça marche pas. Il faut le faire comprendre l'erreur. Parce que aimer, avoir mohabba pour quelqu'un, c'est le faire profiter de quelque chose. C'est faire en sorte que, par mon sohba, par notre fréquentation, je peux lui donner des conseils, et lui, il me donne des conseils, parce qu'il est le miroir. Chaque croyant est le miroir pour son prochain. Ça, c'est construire une relation de mohabba sincère qui sera profitable. Maintenant, ce que les pieux prédécesseurs, ils avaient su développer concernant les erreurs, et ça, c'était vraiment quelque chose de bien. Et c'est là-dessus qu'on doit prendre exemple concernant les péchés, mais même parfois concernant les innovations, les bid'ahs de la religion. Quand on voit quelque chose de mauvais chez une personne, on doit désapprouver l'action et non pas la personne. Est-ce que vous saisissez la nuance? Par exemple, on a notre frère Younous qui est là. Par exemple, si Younous, il a l'habitude d'être grossier. C'est un exemple, c'est pas le cas. S'il est doux comme un agneau, mashallah, et plus. Il a l'habitude d'être grossier, d'accord? Mais je ne dois pas détester Monsieur Younous en entier, non. Je dois désapprouver ce défaut. Être grossier, c'est pas bien. Et je dois lui faire talrib à ce propos. Talrib sur le fait d'avoir hisnul kalam, les paroles correctes, et mise en garde contre celui qui manque de respect envers son prochain, ainsi de suite. Et pareil, je vois une personne qui a, par exemple, qui développe tel bid'ah, telle innovation. Par exemple, là, le grand sujet du jour, qui tourne sur WhatsApp, qui tourne sur Facebook, et ainsi de suite, c'est souhaiter bonne année ou pas bonne année. Vous avez vu, non? Ceux qui sont un peu branchés? Allons, il faut suivre un petit peu l'actualité. D'accord? C'est le grand débat, là, entre les jeunes. Est-ce qu'on a le droit de dire, joyeuses années islamiques, là, toutes, qu'il y a des photos ici circulent sur WhatsApp, vous en recevez 10 d'un coup, il y en a marre de voir les mêmes photos qui reviennent, des photos copiées-collées, bref. La grande question est de savoir si on a droit oui ou non. L'opinion de certains savants, de la majorité des savants, c'est que le sahaba n'avait jamais souhaité à son prochain bonne année. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les débats non plus. Hier, on a eu l'occasion, par la grâce d'Allah, d'expliquer la relation du croyant avec le temps. Le temps n'est pas synonyme de festivité. C'est pas comme dans d'autres religions, on joue de l'an, on fait pas de feu d'artifice, on est heureux, on est content. Il n'y a aucune raison d'être content d'accueillir 1435. Oui, on remercie Allah, une nouvelle année commence, on est en bonne santé, on n'est pas muhtaj, on est sur nos deux pieds, on vit à la masjid, on fait alhamdulillah. Mais je veux dire que c'est pas comme dans certaines communautés que la fin de l'année est synonyme de fête. On va festoyer la nouvelle année. Au nom de quoi? Au contraire, une année qui se termine, c'est angoissant. Pourquoi c'est angoissant, Younous? Parce que, exactement, il faut dégainer plus vite. On s'approche de Malik al-Maut. Je t'appelle Younous aussi? D'accord. On s'approche du Maw'id. Je me suis dit que peut-être, on s'approche du Maw'id liqa, quand on va rencontrer Malik al-Maut, reprend mon âme. C'est angoissant. C'est une année en moins dans mon espérance de vie. C'est moins de rizq, c'est moins de ni'ma et ainsi de suite. Bref, retenons que le temps est plus proche quand je vais voir mon âme quitter mon corps et rencontrer Allah et rendre compte de ma vie. Quand le croyant, il va intégrer le fait que le temps est intimement lié à la mort, on va prendre considération du temps. Je répète, quand le croyant va réaliser, il va prendre conscience que le temps qui passe est intimement lié à la mort, là on va prendre, qadar, on va prendre conscience du temps. Autrement, on attend l'année pour donner des cadeaux, pour souhaiter des vœux. Donc bref, pour revenir à ce qu'on disait, il y en a qui disent qu'il faut pas, c'est bid'a. Je suis de cet avis également que les sahaba n'avaient jamais souhaité bonne année, etc. Ça se saurait sinon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait réunis à la fin de Salat al-Maghrib. Il s'était adressé à nous à la fin du mois de Dhul-Hijjah. Il s'était adressé en ces termes à la communauté que voilà, l'année est terminée. Une nouvelle année commence. Je vous souhaite une bonne année qu'Allah vous accorde. Non! Ça n'existe pas ce hadith. Je suis en train d'inventer là. Je veux dire qu'on aurait eu ce hadith. On aurait eu des traces dans la sirah, dans les hadiths. Mais non, le prophète ne le faisait pas. Allez, maintenant, j'ai mon ami Sharif qui, tout le monde y passe, dit bonne année, distribue des cartes de vœux, etc., etc. Je suis pas d'accord avec son action, mais c'est pas pour ça que je veux dire, lui c'est un innovateur, dégage. Je te salue pas. Je te regarde pas. Je ne dois pas détester la personne. C'est pas lui le problème. Le problème ce sera son action. Autre exemple. Péché, d'accord? La cigarette. Aïe, aïe, aïe. Sujet tabou, d'accord? Ou alors quelqu'un qui se rase la barbe, ou alors quelqu'un qui met pantalon au-dessous de la cheville, ou alors quelqu'un qui écoute la musique, d'accord? On va rester sur ce dernier point, quelqu'un qui écoute la musique, ben voilà, je ne dois pas le rejeter parce qu'il écoute la musique. Je dois détester ce péché, mais je dois essayer quand même de me rapprocher de la personne de telle façon que on peut faire profiter la personne de mes acquis en termes de d'éloignement de ce péché. Et l'orienter vers d'autres choses, d'autres actions qui vont pallier, qui vont remplacer ça et ainsi de suite. Bref, est-ce que on a une conception un peu générale du ma'na, le sens de ne pas se focaliser sur les défauts? Parce que si on se focalise sur les défauts, si on se focalise également sur l'historique des relations, on n'avance pas. Tel beau-frère, en 1997, le joaïd, il a cause mal avec moi, mais depuis 1997, il cause plus avec lui. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas comme ça que ça se passe très souvent? Allah musta'an. La rancune, la haine. Ça, c'est contraire au hubbu fillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se vengeait jamais. Kana la yantaqimu li nafsi. Il ne se vengeait jamais. Même si quelqu'un lui faisait du tort, il ne se vengeait pas. Sauf si quelqu'un touchait au din. Là, il avait du répondant. Il rétablissait l'ordre. Mais si c'était quelque chose de personnel, il n'allait pas chercher la justice ou il n'allait pas punir les gens. Faisait maf, pardonner. Pardonner, se rabaisser à tawadu' lillah, se rabaisser pour Allah, pour aller vers une personne, ça c'est des qualités à développer pour incruster hubbu fillah de le cœur. Ça transite par beaucoup de choses, hein. Ça transite par beaucoup de sifat pour que vraiment j'ai hubbu fillah dans le cœur. Développer hubbu fillah, aimer en Allah dans le cœur, c'est également mettre de côté les mauvaises pensées, su'uvan. Mauvaises pensées, c'est souvent ce qui se passe quand je vois quelqu'un, par exemple, il n'était pas là une salat, ou je l'ai vu dans tel endroit, je sais pas. On a tout de suite une mauvaise pensée que, ah là là, lui, il sort de faire telles affaires, ou il n'était pas là, il dort le là. Je sais pas, il était en ville, il était mazal grand, il était, je sais pas où, et ainsi de suite. Bref, des mauvaises pensées. Quand on nous rapporte quelque chose d'une personne, quelque chose de mauvais, on va croire sur parole. Et on va développer une mauvaise pensée sous ou bonne. Et ça, c'est vraiment satanique. Ça vient de Shaitan. C'est le pied des akdabul ahadith. C'est le pied des récits, ça. Les mauvaises pensées sur quelqu'un. Très souvent, quand on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas bien, on va se dire tout de suite, lui, c'est comme ça. On va mettre la personne dans un tiroir, le cataloguer. Lui, c'est telle famille, donc, n'a telle affaire en lui, tel défaut, ça ben rancunier, ça ben mauvais moun, ça c'est ben moun qui n'a pas un khlak, ça ben, et ainsi de suite. Et on va mettre une étiquette sous ouban, avec mauvaise pensée sur la personne. Ça ne ramène pas Mohammed à la Oumma, ça. Il n'y aura jamais Hubboufillah comme ça. Et après, parfois, par expérience, quand on commence à fréquenter dans le travail, je ne sais pas, il y a une relation, on a dû fréquenter la personne, on se rend compte que je me suis trompé complètement sur la personne. Tout ce qu'on fait, c'est quelqu'un de bien. Il a un bon comportement, un bon akhlaq. Donc, dans les relations, dans les rencontres, et c'est, vous voyez, Allah Akbar, si on ne peut pas résumer le dîn en une séance, c'est pour ça que le secret de la sunnah, la sagesse, le trésor, que le prophète m'a dit, est-ce que vous voulez que je vous donne une action, si vous faites, vous allez vous aimer. Quelle était la réponse du prophète sallam? C'est quoi? Afshu salam bainakum. Faites salam. Faites salam. Allez vers votre prochain et vous allez avoir muhabba entre vous. Parce que quand je vois le moun, je me suis dit que lui il est comme ça, je me mets en retrait. Je me mets en retrait, il voit que la personne se met en retrait, il dit, ça l'est hautain, ça l'est orgueilleux, ça c'est grand famille, ça l'est nanasa de son cœur, nakibre, nafakhar, donc je reste de mon côté. Et on n'ira jamais dans le même sens, il n'y aura jamais muhabba, au contraire. Et moi un jour je vais dire à mes enfants, Bougla, fais attention, Maïpek, lui il est comme ci, il est comme ça, lui pareil. Waswasa de Shaitan, la plus grande victoire de Shaitan, c'est de semer la zizanie. La discorde au sein d'une jama'a, au sein d'une communauté. Alors que afshu salam abaynakum, faites salam, c'est-à-dire allez vers la personne. Et comment on fait salam? Quand vous donnez la main, c'est pas des gens, quand ils donnent la main, c'est comme si on a des virus. Tac, tac. C'est des trucs automatiques. Tac, tac. Une fraction de seconde. La main, il reprend tout de suite. Après, on prend son main, on met dans sa autre poche, où ça va avec. Madriesh. Pour ça, lorsqu'il donnait la main, il tenait la main à la personne. Et tant que la personne ne retire pas sa main, il ne retirait pas sa main. Ressentait la chaleur humaine. Et le prophète, lorsqu'il faisait salam, il regardait la personne. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait salam, il souriait. Il y a des gens, quand vous faites salam, ils ne vous regardent pas. Alors, là, franchement, les gens comme ça, moi, je les zappe. Et Allah me pardonne, ça va en compte de ce que je viens de dire, mais franchement, c'est terrible, ça. Quelqu'un fait salam, t'en cause à quelqu'un, salam alaykoum, salam. Ça, c'est un manque de respect, ajib, ça. Pas parce que vous êtes un limoun, ayez ahad, n'importe qui. Donnez de la considération pour celui qui est en face de vous. Qu'il soit commerçant, qu'il soit chômeur, qu'il soit arabe, qu'il soit maoré, qu'il soit malgache, qu'il soit égyptien ou tchécoslovaque. C'est quelqu'un qui est là, il a l'air dans son cœur. Il a fait un pas vers toi. Il te donne la main. Tu le regardes. Tu tiens sa main. Tu lui fais ressentir la chaleur humaine. Lâche pas sa main. Souris. Montre qu'il y a muhabba. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait salam? Qui me cite une vertu du salam, Younous? Allah, 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 ah, la chère. Pour ça m'a dit que quand les croyants se font salam, avant que les mains ne se séparent, les péchés tombent. Ajib. Ajib. Le simple fait de faire salam, bien sûr, comme il faut, de sincérité et tout, les péchés tombent. Vous voyez les résultats? Voyez la sagesse, voyez la magie qu'il y a dans la sunna, la magie qu'il y a dans la moindre action. Et le fait de dire moindre action, c'est déjà irrespectueux. Dans toute action, même celle qu'on considère comme petite. Faites cela, vous allez voir, les cœurs vont s'unir, il y aura une fusion des cœurs, il y aura muhabba entre les gens. Ça amène l'entente, la cordialité, et ça amène également un apaisement et une garantie de bonne relation à travers les générations de la Ummah. Et on va voir d'autres récits. Je dis, à chaque fois, on va voir. On va peut-être même pas voir ce soir. Ce matin, j'ai passé en revue les quelques textes qu'on doit normalement en faire ce soir. Ben, on se prend des claques. Quand on a dit la première fois, mais des claques, vraiment, c'est monumental. on se rend compte qu'on n'est rien, qu'on est mauvais. On se rend compte qu'on est mauvais, mes chers frères. On se rend compte que ma fréquentation de la masjid, mon grand bas, mon titre, mes a'mal, c'est bien. Mais c'est loin, 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 loin des sahaba, des tabi'in, en termes de akhlaq, de mu'amala, de muhabba dans les cœurs. Combien de fois on voit des gens religieux, qui, enfin je ne juge personne, Allah est seul juge, d'accord, dans un voyage ou autre, fait salam, fréquente, mais dans le fond là, il n'est pas là écoulé. Il ne te considère pas. Parce que tu es quoi? Tu n'es pas telle race, tu n'es pas tel grand. Hein, t'as un problème? Tant pis pour toi. Allah me pardonne, hein, peut-être je suis comme ça aussi, qu'Allah me permet de faire mon islah moi-même. Il va être bien, il y aura tout ce qu'il faut, mais tu as un problème, il n'est pas là pour résoudre tes problèmes. T'as des dettes, tu as un problème, tu n'as pas à manger, tes enfants n'ont pas de vêtements et tout. Ça ne le regarde pas. Mais il va être là tout le temps, hein. Tous les salats, il va être là, et ainsi de suite. Il va être régulier d'aller à Amal, c'est-à-dire dans la salat, dhikrullah, lecture du Coran, etc., etc. Mais il ne va pas aller vers son prochain. Et là, on se rend compte qu'il y a un gros manque dans le din. C'est iman qui n'est pas complet. Manquement dans iman. Parce qu'on ne fait pas partie des ahlul iman, celui qui ne se préoccupe pas de son frère en islam. Celui qui n'a aucun sentiment, aucune préoccupation pour ce prochain. Alors, on va arrêter avec l'introduction. Premier droit, pour essayer, ça c'est, on va dire, une synthèse, pour essayer de construire muhabba, un amour en Allah sincère pour mon prochain, la première chose c'est voir quel est le droit de mon frère en islam je dis, hein, pas frère de sang, mon frère en islam, quel est son droit me concernant. Premièrement, les ulama disent qu'il y a al-haqqu fil mal, le droit concernant les biens. Et un hadith de lequel dit qu'Allah Azza wa Jal a promis son muhabba, son amour pour ceux qui dépensent pour Allah. C'est-à-dire que, entre autres, on va voir à travers différents récits, c'est donner pour son frère en islam. Lui donner, lui venir en aide quand il a besoin, financièrement. Là, on parle du côté financier. Ensuite, on va parler du côté de l'apport physique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le khidma qu'on fait personnellement, ainsi de suite, il a réalisé à aller. Alors, les savants disent qu'il y a deux catégories, il y a deux, on va dire deux degrés plutôt, deux degrés. Le premier degré, et là on va voir, c'est le plus bas, hein. On commence par le plus bas et on va voir que c'est déjà trop haut. Le premier degré, c'est « an taquma bihajatihi min fadlati malik ». Il y a que dans l'argent qui te reste, d'accord, l'argent en plus, donc à la fin du mois, on a couvert nos dettes, on a fini... pas les dettes, les factures, les courses, le loyer et tout, il reste quelque chose. Ben, ce quelque chose-là, je dois absolument l'utiliser pour venir en aide à mon prochain. C'est-à-dire que quand je vois qu'il me reste quelque chose, je vais aller vers mon prochain. Et là, c'est pas que j'attends qu'il vienne me demander, hein. Je vais voir mon frère en islam, je le répète encore. C'est-à-dire, monsieur, tout le monde, mon frère en islam sera Sharif, sera Younous, sera Abdul Qadir, sera Ahmad, Mohamed, Ismaïl. Pas forcément les enfants mon papa ou les enfants mon maman. Non. Mon frère en islam. Je vais le voir, si je vois quelqu'un, il est un petit machin, il me dit qu'écoute, j'ai 200 euros, je sais que j'ai vu que tu as quelques petites difficultés. Tiens, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais faire des courses, je vais prendre ça, voilà, ça c'est pour toi, et ainsi de suite. Et dans cette catégorie, il est bien stipulé aller vers son prochain et ne pas attendre que la personne vienne nous demander. Parce que quand on attend que la personne vienne nous demander, la personne est déjà rabaissée. Psychologiquement, c'est pas facile ça. Aller demander, c'est casser son amour propre de père de famille, de ce qu'on représente à la société. Parce que la personne sait qu'à partir du moment qu'il a demandé, les gens ne le regarderont pas de la même façon dans la communauté, dans la société. Alors que le croyant, le vrai mu'min, c'est quand il lui reste quelque chose, c'est une claque sévère ça Younous, non? Ah oui. C'est aller vers son prochain et dire que voilà, je ça c'est pour toi. Ça c'est quelque chose pour toi. C'est pas zakat, c'est pas rien. Je veux t'aider, un cadeau, muhabba, parce qu'on est frère en islam. C'est pas simple ça. Et ça va à l'encontre, c'est totalement contradictoire avec les valeurs de notre société. Dans notre société, s'il vous reste un petit quelque chose, il faut investir. Investir pour gagner encore plus, placez votre argent, placez-le ici, placez-le là, et dans un an, vous aurez plus. économiser pour pouvoir acheter le canapé, pour pouvoir acheter la voiture, pour pouvoir acheter, je ne sais pas, telle chose, société de consommation. Quand on dit société de consommation, c'est société égoïste. C'est société égocentrique. Les deux eggs, égoïste et égocentrique. Tout est basé sur nous-mêmes. Ma réussite, mon bonheur, ma joie, mon contentement, ma jouissance. Et l'autre, il est où? L'autre, il est dans fraternité. Écrit en la mairie, liberté, égalité, fraternité. Mais fraternité, bon, on va laisser ça gravé. On va laisser ça dans les beaux textes. Ce sera un vœu pieux. Mais en finalité, il n'y aura pas de fraternité. Parce que quand il y a un petit peu d'argent, soit on place, pour ceux qui ont beaucoup d'argent qui reste, soit ils placent, soit on essaie d'acheter quelque chose qui va nous faire plaisir. Mais il n'y aura jamais qu'on va donner, on va essayer de voir qui a besoin. Le monde qui sort de la rue, qui dit que ça a besoin de quelque chose, mis d'Anali, tu dis, ça est malade ça. Appelle l'hôpital Saint-Paul, a été Anali. Il n'est pas maître de ses biens, il va dilapider ses biens. Garde pour des enfants, fais ci, fais ça. C'est-à-dire, on ne comprendra pas cette réaction, alors que les Sahaba vivaient comme ça. C'était leur vie, ça. Pour eux, il n'y avait pas, on économise pour avoir plus, non. Il y a de l'argent, on donne. Ça, c'est le degré le plus bas. Donc, ce qui reste après tes besoins, tu l'offres à ton prochain. Donc là, déjà, on voit que c'est compliqué et on n'y arrive pas. Et maintenant, si vous expliquez cette thèse à un économiste ou à un expert comptable, je ne sais pas, les gens qui connaissent bien les chiffres, vont dire, attention, si vous faites ça, il doit avoir bien des TM savants, il n'y aura plus de prévalue, vous n'aurez plus rien, à la fin de l'année, le bilan sera négatif, qu'est-ce qui va rester? Votre pouvoir d'achat va baisser, et ainsi de suite. Pour lui, tu as moins. Logique ça. Tu as 20 euros, tu as 2 billets de 5 dans ton portefeuille, tu donnes 1, il te reste un seul. C'est-à-dire ton pouvoir d'achat a diminué. Ça, c'est les règles de base d'économie. Mais islamiquement, c'est pas comme ça. Le prophète a fait qasam. Si le prophète a pris soin de dire Wallahi, je jure par Allah que votre bien ne diminue pas avec la sadaqa. Wallahi, ma naqasa. Jamais votre bien ne diminue par la sadaqa. C'est que quand tu donnes, Allah te donne plus. Et quand on te dit qu'Allah te donne plus, c'est pas que le lendemain quand tu vas au portefeuille pour Fajr, oh, il y a 5 euros. Non. C'est quand t'es petit, quand t'es ramasse bébête l'argent, pourquoi t'as fait ça? Te mettre dans la boîte d'allumettes, après t'as dit vous mettez une petite pièce, et le lendemain, le petit pièce devient 10 euros, 10 francs, un truc comme ça, bref, intiqad. On croyait ça. Vous n'avez pas fait ça, non? Ah bon, faut me revoir ma famille, Vous avez des habitudes bizarres, alors. Bref, et comme la petite souris, ainsi de suite. C'est pas comme ça que demain tu ouvres ton portefeuille, les billets se sont multipliés. Ça, c'est les marabouts qui font ça. Vous donnez un billet, il fait, vous transforme en 5 billets. Bref, ça, c'est pas ça. C'est la baraka qu'il y aura dedans. Et la baraka, ça ne se mesure pas, ça ne se pèse pas, ça ne se scanne pas, ça ne dépend pas du CAC 40, ça ne dépend pas du Dow Jones, ça ne dépend pas du... Voilà, Shay, c'est quelque chose qu'Allah y met. C'est raïb. Tu as donné à ton prochain, tu avais 10, tu as donné à ton prochain 5, tu te restes dans ces 5-là, tu vas avoir des choses que tu n'aurais pas pu avoir en 10. Dans les 5-là, ce que tu vas acheter, ça te procurera un bonheur, une joie, tu n'imagines pas. Ça vous est déjà arrivé de manger un repas? Moi, ça m'arrive. Manger un repas, oui, ça arrive à tout le monde. Je continue. De manger un repas et on ne trouve pas Madja. Trouve pas le goût dedans. On mange un bol, je ne sais pas, de biryani ou je ne sais pas, quoi ça vient manger. On la mange tout seul et du début jusqu'à la fin, je n'ai pas eu la jouissance gustative. Alors que tu partages, tu ressens le plaisir de la nourriture. Tu as partagé avec ton prochain. Alors que sur le plan quantitatif, tu as eu moins de riz, moins, ou là, un cuisse poulet en main, ou etc. Mais baraka, c'est autre chose. Et baraka, c'est également de ce que tu mangeras moins, mais de ce que tu vas manger là, tu auras une force, l'énergie pour faire plein de choses. Alors que de l'autre côté, où le ventre est lourd, on va dormir, on va louper plein de choses, et ainsi de suite, où on aura mal au ventre, ou je ne sais pas quoi. Et qu'avec la baraka, c'est le peu que tu as, il y aura une bénédiction d'Allah dedans. Ça te permettra de faire plus de choses. Physiquement, tu es bien, tu te sens mieux. Ça ne vous arrive pas parfois d'avoir du peps tout d'un coup? On est en forme. Tout d'un coup, il est bien, il a l'énergie. On n'a pas boire Red Bull, mais il est en forme. ou alors même psychologiquement, on se sent joyeux, heureux, content, épanoui. Tout ça, c'est baraka. C'est des choses qu'on ne peut pas connaître, on ne peut pas mesurer. Ça, c'est quand Allah Azza wa Jalla accorde baraka. Donc, pour revenir à ce qu'on a dit, être conscient que quand je donne, hein, ça ne diminue pas mes biens. Alors donc, quand on va expliquer, quand vous allez expliquer cette thèse prophétique à votre expert comptable ou à votre comptable, il va vous dire, surtout ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Quand est-ce que vous allez investir? Quand est-ce que tu vas refaire ta toiture? Tu vas refaire l'étanchéité? Quand est-ce que tu vas pouvoir enfin investir pour acheter ce studio? Parce que tu as un troisième enfant. On a deux appartements, on donne deux enfants. Il faut un troisième pour lui. Tu ne pourras pas, et ainsi de suite. Ce sera un bilan comptable. Mais là, on parle d'un bilan spirituel de hasanat. Ce qu'Allah te donne, c'est quelque chose d'énorme, d'extraordinaire. Il y a des gens qui ont cumulé, qui ont monté des bâtiments, qui ont fait telle chose, ils ne jouissent pas de ses biens, il est malade. Il est à l'hôpital. Il n'est pas en bonne santé. Il ne peut pas sortir. Il a tellement d'argent, il aurait pu faire un festin tous les jours. Il ne peut pas. Il a un cholestérol, il a diabète, il a des affaires, il n'a pas le droit à manger de riz, pas le droit à manger de la viande si elle a été cuite dans un petit peu d'huile, pas le droit à manger des affaires sucrées. Il a réel valik, la protège, accorde la santé à ceux qui souffrent. Bref. On ne peut pas profiter de ce qu'on a. Là, je vous donne des exemples, panel d'exemples. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont diabétiques n'ont pas baraka, comprenez, et ainsi de suite. Panel d'exemples que c'est pas, ne vous basez pas sur le visuel. J'ai un gros panier de fruits, donc je vais manger beaucoup de fruits. Non, ne vous basez pas sur la quantité. La quantité ne procure pas bonheur. Non, le bonheur, c'est avec la baraka. Quand Allah Azza wa Jal est satisfait, il envoie sa nusra, sa baraka, la bénédiction dans ce qu'il a dit. Donc, le premier degré que les savants expliquent, c'est ce qui te reste, tu donnes à ton prochain sans attendre qu'il ne demande. Ce qui implique que régulièrement, on vient en aide aux membres de la communauté et sans chercher de retour ou un intérêt. Je vais l'aider parce que lui, son famille, les conseil général. Je vais l'aider parce que lui, il a un beau-frère de la préfecture. Lui, il travaille mal à l'article. Miyad Ali, comme il a un PV, tac, du beau-frère, envers le PV, et voilà. Sadaqa compte PV, retrouve-moi bien. Miyad Ali, 20 euros, il fait certains PV 120 euros. La vie est belle. Non, c'est pas ça. C'est la première personne que tu vois avec qui tu n'as rien à gagner. Ça, c'est ikhlas. Ça, c'est sincérité. Est-ce que déjà, ce degré-là, c'est dur? Ah, c'est dur. Est-ce qu'on y pensait? Est-ce qu'on pensait que ça fait partie de l'islam, ça? N'imaginez même pas. Mais ça veut dire, c'est partie de l'islam. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas ça, tu n'es pas musulman ou tu es pécheur. Non, ça fait partie de la perfection de la foi. Être un bon croyant, c'est ça. Après, il dit oui, mais donc il n'est pas obligé. Il dit oui, il n'est pas obligé. Mais il n'est pas obligé aussi. Ou il est sous le nom du trône d'Allah, jour qui a mal. Il n'est pas obligé. On peut ramer que les 45 milliards de personnes sous soleil. T'en pas qu'à où? On n'est pas obligé. Oui, je ne suis pas obligé de faire autant de bonnes choses, tout comme je ne suis pas obligé d'être sous l'ombre du trône d'Allah. Maintenant, si tu veux avoir le top, si tu veux être au summum, avoir le meilleur, ben fais de ton mieux. Fais tes a'mal. Autrement, si tu es monsieur tout le monde, le croyant de base, ben tu seras avec tout le monde. D'accord? L'autre degré, si déjà ça c'était dur, imaginez le deuxième. Ben le deuxième, c'est le verset de lequel Allah Azza wa Jal dit de Surat al-Hashr. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. C'est-à-dire que ceux qui, j'ai pas la traduction littérale, ceux qui viennent en aide à leur prochain, alors qu'eux-mêmes, ils sont dans la difficulté. Qui connaît l'histoire? Circonstance de révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la visite d'un pauvre qui a dit, « Oh, prophète d'Allah, est-ce que tu peux m'aider? Je n'ai rien à manger. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé cette personne auprès d'un sahaba. Je n'ai pas le nom du compagnon en tête. C'est quelqu'un là qu'il me le dise, barakallahu fikum. Il dit, oh, un tel, dis que tu viens de ma part, prophète d'Allah. Et la personne va voir le sahaba, dit que c'est le prophète qui m'a envoyé, il m'a dit de venir te voir pour quelque chose à manger. La personne dit à sa femme que aujourd'hui, on accueille l'invité de Nabiullah. Alors que c'est monsieur tout le monde. C'est quelqu'un d'ordre, astaghfirullah, d'extraordinaire, ce que c'est un sahaba, mais de tout à fait ordinaire dans leur société. Quelqu'un qui n'est pas spécial, c'est pas un chef de tribu, c'est pas quelqu'un qui a une notoriété. Personne n'est heureux. dit à sa femme. Et sa femme, bon, la réalité, c'est que il y a un tout petit peu à manger. Il y a pour papa, maman et les enfants. Donc là, il dit, bon, comment il fait là? En même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyé un invité, daif, c'est un grand honneur. Le père, et là, le monsieur va dire que, écoute, on va trouver une solution, fais manger les enfants. Ou bien non, il a dit, envoie-les au lit, hein? Comment? Fais dormir les enfants. Et moi, je reçois l'invité. Et comme il y a peut-être assez à manger que pour une personne, pour que la personne mange ventre plein, je vais, durant la conversation, faire comme si que la lumière ne marche pas. EDF. Non, pas EDF. Comme si que la lampe n'allume plus. D'accord? Et donc, la personne va croire que je suis en train de manger avec lui. Et en fait, il mange, mashallah, ventre plein. Il a laissé sa femme et ses enfants sans manger pour honorer Daif, un invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Parce que toi-même tu es dans l'ennui, mais tu vas voir celui qui est dans plus de difficultés et tu vas le venir en aide, même si tu prends sur toi. Alors là, franchement, ça c'est le summum de la foi. Et ça c'est contraire à tout ce que la société peut véhiculer comme valeur. Quand on va dire que les musulmans, ils sont comme ça, ils sont comme ça, à dire ok, on est comme ça, on est comme ça, mais on est comme ça aussi. Ça c'est nos valeurs. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il dit que quoi? Déjà, je finis pas mes fins du mois, j'ai mon SMIC, que je m'en sors pas, tu me dis d'aller faire des courses pour mon voisin, alors que moi-même, j'ai pas assez de je sais pas quoi, de viande à la fin du mois, et oui, je mange pâte au Minapolo, dernière semaine du mois, et je vais aider mon prochain, c'est pas possible, c'est illogique, c'est incohérent, mais c'est full en thawab, en hasanat. Ça, c'est le deuxième daraja de haqqu fil mal, le droit de mon frère en islam dans mes biens. On voulait conclure, parce qu'on ne va pas aller plus loin, parce que là, il y avait les exemples des deux côtés, entre celui qui donne, mais également comportement exemplaire de celui qui donne, mais comportement exemplaire également de celui qui reçoit. Parce que les deux doivent avoir qualité de iman. Il ne faut pas qu'on ait d'un côté, parce qu'après ça peut être décourageant, quelqu'un qui donne, et d'un côté le bouc il prend tout, et à chaque fois il dit, donne, et d'un moins, à un moment donné quand on va aller au fil, on passe par l'autre porte, on le met tout celui-là, on dit, attends, mais il passe par là-bas, parce que il attend comme un sniper qui s'y sort pour prendre l'argent. Là c'est compliqué. Sans porter de jugement, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah envoie baraka pour celui qui est dans difficulté. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une éthique pour celui qui donne, mais également une éthique pour celui qui reçoit. Et là, on va voir, je vous donne un exemple, parce qu'on l'a abordé, et ça, on va essayer de développer la prochaine fois. Abdurrahman bin Auf, radiallahu anhu, il va à Medina, muhajir, hijra, avec le sahaba, il laisse tous ses biens, alors qu'à Makkah, il a ce qu'il faut, il est obligé de quitter Makkah en douceur, d'accord, clandestinement pour aller à Medina pour son iman et donc laisser tout ce qu'il a là-bas. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le mu'akhat, le lien de fraternité, tout le monde a entendu parler, avec Sa'd ibn Rabi'a radiallahu anhu. Sa'd ibn Rabi'a, il est Ansar. Et Abdurrahman ibn Auf, il est Muhajir. Bien. Ansar, c'est celui qui est à Médine, qui accueille. Fa'arada alayhi Sa'dun أن يشاطره نعمته وأن يطلق له أحسن زوجتيه. سعيد نو سعد il propose, سبحان الله, à je retrouve عبد الرحمن بن عوف, c'est bien, et il demande et il propose à عبد الرحمن بن عوف, voilà, j'ai deux épouses, je donne talaq à la plus belle d'entre elles, celle qui te plaît, et après Ida tu la prends en mariage, c'est-à-dire je partage. Je donne talaq à la plus jolie des deux et tu le prends comme épouse. Et bien, la moitié ou la quantité que tu veux, c'est pour toi. Ajib ça. Déjà, regardez le sifat, qualité dans celui qui donne. Mais maintenant, regardez le sifat dans celui à qui on propose. Abdurrahman bin Audi, Barakallahu laka fi ahlika wa malik, walakin dullani ala souq. Allah t'accorde baraka, bénédiction dans tes biens, dans ta famille. C'est gentil. Mais montre-moi plutôt où est le marché. C'est-à-dire que je vais travailler. Montre-moi le chemin du marché pour que je vais commencer faire le commerce, je vais gagner ma vie. Je ne suis pas là pour apprendre. D'accord ? C'est-à-dire que le juste milieu, quelqu'un a des besoins, il prend, sans non plus à chaque fois demander ou cumuler, et ainsi de suite. Donc, sans porter de jugement, on voit dans la vie des tabi'in, ils savaient donner, mais ils savaient également recevoir avec le juste milieu. Il y avait une anecdote qui vraiment pouvait conclure ça de manière très forte, mais là, on ne retrouve pas parce que je cherche, il ne faut jamais chercher, parce que après on ne trouve pas. On va conclure sur la parole d'Ibn Umar, radiallahu anhuma. Et retenez bien le nom de la personne. Ibn Umar, radiallahu anhuma, qui est le fils de Umar ibn al-Khattab. Il dit, « Ata alayna zamanun, wa ma yara ahadun minna ahaqu bid-dinari wa dirhami min akhihi al-muslim. » Il se fut une époque où nous avons vécu à une époque où on voyait, on considérait que la personne qui avait le plus de droits sur mon argent, sur mes biens, c'était mon frère en islam. Wa inna fi zamanin ad-dinar wa ad-dirham uhabb ilayna min akhina al-muslim. Et à notre époque, malheureusement, les époques ont changé. On vit maintenant une époque où les biens, le dinar et les dirhams, ont plus d'importance à nos yeux, ont pris plus de place dans notre cœur que notre frère en islam. Qu'est-ce qui est choquant? C'est Ibn Umar qui le dit. C'est-à-dire que l'époque des petits, des sirar ou sahaba, et les générations qui sont venues donc après. Il dit que déjà à cette époque, il y a eu un changement dans les valeurs. C'est-à-dire à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand j'ai de l'argent, pour moi la priorité, ce bien-là, là, les personnes prioritaires, ce sont mes frères en islam, les données. Il dit alors que les générations qui sont venues ensuite, quand on a de l'argent, cet argent prend plus de place dans nos cœurs que notre prochain. Et là, ça soulève la grande question de l'humanisme. Les sociétés modernes se targuent de l'humanisme. L'homme qui est au cœur de chaque chose, et non pas Dieu, na'oudou billah, ou non pas autre chose. On considère l'homme plus qu'autre chose. Oui, eux, ils étaient humanistes. Vous êtes des capitalistes. Le plus important, c'est la fin du mois. C'est le bout de gras, comme on dit. Le plus important, c'est le pouvoir d'achat. C'est ce que je peux avoir. Ce n'est pas mon prochain. Alors que, subhanallah, regardez comment les sahaba vivaient. Quand vous avez un bien, la priorité, c'est voir qui c'est qui va, à qui je peux donner, à qui ça va être utile. Et non pas, qu'est-ce que je peux obtenir de cet argent, de quelle façon l'investir pour gagner plus. Ça, c'était un état d'esprit. C'est l'état d'esprit du mu'min, du croyant. Maintenant, malheureusement, notre mode de vie ne correspond plus à cet état d'esprit. Je ne suis plus représentatif des valeurs de l'islam. Donc, si on me pointe du doigt, ils ont parfois raison. Alors que s'ils avaient eu des sahaba, ce doigt pointé se serait transformé en doigt levé shahada. Retenez, hein, copyright dessus. Ce doigt pointé se serait transformé en doigt levé shahada immédiatement. S'ils avaient vu les sahaba, ils auraient lu la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tout de suite, parce qu'ils auraient vu des hommes extraordinaires. Des hommes aux qualités incroyables, inimaginables, qui dépassent tout ce qu'un être humain peut rêver en termes de relations humaines. Des vrais, des gens qui ont vécu l'humanisme dans leur mode de vie et non pas juste comme thèse ou comme philosophie. Mes chers frères, quand on voit ces quelques actions-là, ces quelques comportements des pieux prédécesseurs, des sahaba, des tabi'in, pour ne pas dire d'autres mots, on se rend compte que vraiment, eux, ils avaient compris le dîn. Ils avaient compris que dîn, ce n'est pas la grande barbe uniquement, ce n'est pas cinq namaz par jour uniquement, ce n'est pas dhikrullah uniquement, ce n'est pas tilawat al-Qur'an uniquement. C'est également aimer son prochain. Et le fait d'aimer son prochain, ça ne se limite pas à un beau discours. C'est vraiment aller prendre mon argent qui reste à la fin du mois, aller voir telle famille dans difficulté, je vais aider. Allez faire un tour au Vemd avec Hadji Youssouf Bobatiot. Demandez un peu à Hwal. Situation des familles musulmanes. Juste demandez un petit peu, est-ce qu'il y a beaucoup de familles démunies? Vous tirez une liste, vous n'imaginez même pas. Ce n'est pas juste des populations, très souvent, je ne porte pas de jugement, on caricature que les pauvres, ce sont les Comoriens, les Maorés, et voilà. Non, dans toutes les communautés, il y a des gens en difficulté. Alors moi, le bon comportement du mu'min, c'est d'aller voir les familles qui sont en difficulté, à la fin du mois, quand vous faites vos courses, achetez un poulet, achetez un paquet de riz, achetez deux bouteilles de l'huile, achetez des yaourts, achetez du lait, allez voir telle famille, vous déposez, ça c'est pour vous. Frère en islam, sans demander quoi que ce soit, ça c'est vraiment le comportement du croyant. Et les sahaba, ils allaient plus loin encore, ils se privaient pour donner à leur prochain. On va essayer de travailler ça encore dans deux semaines, de voir à travers, là on a eu la thèse, on va voir les anecdotes, et franchement quand on voit les anecdotes, ça, vous restez bouche bée. Vous vous dites qu'il y a un fossé encore à compléter pour avoir les qualités, les sifat de iman. Qu'Allah nous donne tawfiq, à moi en premier, ensuite vous, hein, d'accord. Qu'Allah nous donne tous tawfiq de comprendre ces paroles, Wallah, et de mettre en pratique. Je vous dis clairement, c'est une réalité. Tirer 5 euros, c'est lourd. Oui, non. Et quand vous êtes, regardez, vous faites vos courses, hein, quel que soit l'endroit, hein, c'est tous des capitalistes de toute façon, vous faites vos courses et vous voyez tel produit en promotion, dire, vous prenez sans problème, vous le mettez dans votre caddie, dans votre chariot, d'accord. Il coûte 5 euros, il dit qu'au lieu de 8, ça passe à 5. Trop bien. Mais on n'a pas besoin de mettre d'autres chariots. Un jour, je vais trouver son faïda. Même là, pas besoin, on prend. Il dit, je vais comprendre pourquoi c'est bien un jour. D'accord. On met, c'est normal. Ça a coûté combien? 5 euros. Vous voyez quelqu'un en difficulté qui n'a rien à manger, le sandwich, un petit repas coûte 5 euros. C'est lourd. La main, là, elle est lourde. Là où il y a tendinite. Ouh, tendinite, la taille lève. Ah, ça, c'est sérieux. Vous n'allez pas mettre la main dans la poche, tirer 5 euros, donner. Dur, les durs. Si on l'a donné aussi, c'est dit, on est sûr, on a besoin. Est-ce que. On est sûr que c'est pas autre chose, que tu as besoin, t'as pas besoin de réconfort ou autre chose. C'est vraiment de là, de ça. C'est très dur. Cette même somme, on peut le claquer une fois, deux fois, trois fois plus. Rafla, dans l'insouciance. Tu amènes tes enfants quick, halal. Tu claques 28 euros. Tu manges du hamburger, de chicken, je sais pas quoi, et ainsi de suite. Sans problème. Quand tu sors là-bas avec tes 30, tu as payé 30 euros. Il y a aucun remords, il y a parce que bon, ben voilà. Mais quand tu as donné 5 euros, tu dis que c'est beaucoup d'argent, c'est vraiment mujahada, etc., etc. Ça, il faut changer. C'est là-dessus qu'il faut travailler. En plus qu'on travaille notre salat, notre dévotion, notre concentration, on travaille notre dhikrullah, notre lecture du Coran, nos a'mal, mais également travailler ça, ça fait partie de la perfection de la foi. Qu'Allah nous accède d'un tawfiq en pratique. Il y avait une personne qui nous avait fait une demande la dernière fois concernant les adhkar, de faire un rappel sur les adhkar qui sont sunna après la salat. Vous voulez le faire ce soir, mais on en est déjà 47 minutes et ça ne va pas être possible. On va garder pour une prochaine fois, inshallah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.